Il est 6h40, vous écoutez France Culture. Exceptionnellement, nous ne retrouvons pas Jacques Munier ce matin qui est absent pour son journal des idées, exceptionnellement, mais nous retrouvons Antoine Dulster. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Vous nous rejoignez-vous pour les enjeux internationaux qui vont durer une demi-heure et vous vous penchez ce matin sur les droits humains au Mexique.
Oui, c'était un an après l'entrée en fonction du président López Obrador. C'était le 1er décembre 2018, l'arrivée au pouvoir de cet homme de gauche, à contre-temps de la tendance générale en Amérique latine, avait suscité de grands espoirs dans un pays, le Mexique, ravagé par la violence depuis de nombreuses années. Andrés Manuel López Obrador, surnommé AMLO par ses partisans, avait annoncé d'emblée que son mandat présidentiel constituerait la quatrième transformation dans la longue histoire de ce pays. La quatrième transformation après l'indépendance, la réforme et la révolution de Villa et Zapata. Mais au bout d'un an, des doutes apparaissent déjà sur sa capacité à gérer les affaires de la deuxième économie de l'Amérique latine, à commencer par l'épineux dossier de la violence. Violence des cartels de la drogue et du crime organisé, violence aussi de certaines unités des forces de sécurité. La population paie le prix très lourd, plus de 28 000 morts depuis janvier 2019. Un chiffre qui est en augmentation depuis l'an dernier et la tendance ne semble pas devoir s'inverser. Le gouvernement mexicain peut-il et veut-il vraiment changer la donne en matière de droits humains au Mexique? On en parle avec vous, Alain Musset, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous, vous êtes géographe, directeur d'études à l'EHESS. Alors, et spécialiste du Mexique, les chiffres de la violence que je donnais il y a un instant au Mexique sont très mauvais. Le président et le gouvernement ont-ils pris, au bout d'un an, selon vous, toute la mesure de ce problème ?
Alors effectivement, les chiffres sont épouvantables même. Et très récemment, encore ce week-end, il y a eu un affrontement entre les corps de la police et des narcotrafiquantes. Et ça a fait une vingtaine de morts. Et c'était juste au moment, effectivement, pour le 1er décembre et donc pour le premier anniversaire, en fait, de la prise de pouvoir. Et ça, c'est très, très difficile pour lui. Les chiffres sont mauvais et alors qu'il avait annoncé parmi ces grandes mesures une baisse de la violence en changeant complètement de stratégie. Il disait, et à juste titre, ce n'est pas la confrontation qui va apporter la paix. L'usage de la force entraîne la force. Je vais ouvrir les bras. Il avait même promis une sorte d'amnistie, un petit peu comme en Colombie pour les FARC, ce qui avait fait réagir de manière parfois extrême une grande partie de la population. Et on voit que ça ne donne absolument rien. On va atteindre sans aucun doute pour cette année à nouveau un record. Il faut voir que depuis 2006, c'est-à-dire depuis le moment où l'État mexicain a déclaré la guerre aux narcotrafiquants, on est presque à 300 000 morts. Ça paraît invraisemblable dans un pays qui se dit en paix. Et en plus, il y a toute une autre délinquance, les enlèvements, les vols, etc., etc. C'est un bilan effectivement catastrophique.
Alors, vous parlez donc de ces 300 000 morts depuis la guerre effectivement contre le narcotrafic qui avait été lancée par le président Felipe Calderón fin 2006. Un an donc de mandat pour Andrés Manuel López Obrador. Est-ce que c'est prématuré de faire peut-être un bilan de sa stratégie de sécurité? Il essaie de se démarquer de ses prédécesseurs. Donc, vous l'avez dit, Alain Musset, moins de confrontation, plus de volonté de pacifier le pays avec la création d'une garde nationale qui remplace la police fédérale. C'est symbolique ce type de mesure. Est-ce que ça peut vraiment avoir des effets, cette garde nationale au Mexique?
Alors, l'idée de la garde nationale faisait partie de son programme. Et effectivement, ça partait d'un point très simple, à savoir que la corruption avait gangréné une grande partie des institutions mexicaines et aussi une partie de la police. Donc, on fait table rase, on crée un nouveau corps qui va permettre de purger un petit peu les comptes avec une idée de base qui était que normalement la garde nationale devait être dirigée par des non-militaires. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. La garde nationale est en fait une sorte maintenant de dépendance de l'armée. À partir du moment où c'est une dépendance de l'armée, beaucoup d'opposants se disent « mais où est la différence ? On ne voit pas ce qui a changé et il y a toujours de grandes confrontations. » On l'a vu avec, comme je l'avais dit ce week-end, un affrontement et avec quelque chose qui a beaucoup frappé l'opinion publique, c'est quand un groupe des forces gouvernementales s'est emparé du fils aîné du Chapo, El Chapo Guzmán, qui est à l'heure actuelle en prison aux États-Unis, et que son cartel a mis Culiacán, la ville, à feu et à sang pour obtenir sa libération, et il l'a obtenu. Et même lui, même AMLO, même López Obrador a dit que l'État mexicain avait dû se mettre à genoux devant les narcos. Si ça, ce n'est pas un constat d'échec, que faut-il penser ?
Oui, la vulnérabilité de l'État est apparue au grand jour, effectivement, dans cet épisode. Vous le rappeliez, c'était effectivement la capture très brève de Ovidio Guzmán. Alors, au-delà de cette violence très, très grande des narcos, l'ONG Amnesty International publie un rapport intitulé « Quand les paroles ne suffisent pas », justement pour caractériser ces insuffisances du gouvernement, à la fois dans la lutte contre la violence et dans la gestion des questions relatives aux droits humains. Je vais citer ce rapport, Alain Musset. Le gouvernement du président Andrés Manuel López Obrador a montré une volonté de faire avancer certains dossiers, surtout en ce qui concerne la question des disparitions dans le pays. Cependant, un an après la prise de fonction de ce gouvernement, aucun changement significatif n'a pu être observé dans le quotidien des millions de personnes confrontées à une très grave crise en matière des droits humains depuis plus de 10 ans. Ce sont des mots très durs et ils viennent de Amnesty International. Alain Musset, est-ce qu'en termes de droits de l'homme, de la même manière, on n'a pas là une conséquence obligée de cette impossibilité de faire reculer la violence ?
Eh bien oui, effectivement, il faut dire que López Obrador a hérité d'une situation désastreuse. Et il l'a dit lui-même, tout à fait récemment, il a dit « c'est pas au bout d'un an que je réussirai à changer les choses », et notamment cette fameuse quatrième transformation dont vous avez parlé dans l'introduction. Donc il a besoin de temps, mais les gens commencent à s'impatienter. Entre janvier et octobre, ce sont mes derniers chiffres, donc 2019, il y a presque 1700 personnes qui ont été enlevées au Mexique, alors que normalement on s'attendait à une baisse de la tension. Donc ça aussi, c'est un échec, mais qui est un échec qui va avec tout le reste. À l'heure actuelle, le Mexique est au bord de la récession économique. Le taux de croissance, il est autour de 0,1. Il n'a pas les moyens d'engager une grande politique de rénovation sociale qui aurait dû être la base de son programme pour contenir la violence, parce que, et là encore une fois, il a raison, une grande partie de cette violence est due au fait qu'il y a une très mauvaise redistribution des richesses au Mexique, de très fortes inégalités, qu'il est toujours plus facile pour un gamin de devenir un sicario, c'est-à-dire
un criminel, un narcotrafiquant,
d'un cartel, que d'aller à l'école et de progresser. Donc son idée, c'était, on va améliorer toutes les conditions générales de vie des Mexicains et des Mexicaines. Et là, dans les droits humains, c'est quelque chose, à mon avis, qui est fondamental, parce qu'on se fixe toujours sur la violence et on a oublié que derrière, il y avait cet énorme passif des inégalités. Et il a dit, je vais lutter contre les inégalités. Et là, effectivement, on peut dire, il y a beaucoup de paroles et il n'y a pas encore assez d'actes. Pourtant, il a lancé des choses. Pour le prochain budget, il a prévu 13 milliards de dollars pour les dépenses sociales. Si ça, ce n'est pas un signal fort, que faut-il attendre ? Donc, il ne faut pas, je crois, jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est vrai qu'il a des problèmes. Ça ne correspond pas exactement au programme qu'il avait annoncé, mais il essaye quand même de faire des choses.
Alors sur un plan plus politique, Alain Musset, j'aimerais vous entendre sur vraiment ce que dit l'ONG Amnesty International. Les paroles ne suffisent pas. Là, c'est une qualification politique. Je crois qu'on peut le dire, c'est une allusion à un rituel présidentiel qui s'est instauré depuis un an. La conférence de presse quotidienne matinale du président, c'est un exercice dans la grande tradition latino-américaine. On pourrait presque, depuis la France, taxer cet exercice un petit peu de populisme. C'est un exercice d'ailleurs qui est critiqué par la presse indépendante au Mexique même, notamment par la revue Proceso. Est-ce que, je le disais, dans une grande tradition latino-américaine, il n'y a pas aussi une relation un peu ambivalente avec les défenseurs des droits de l'homme, avec la presse, qui ne lui serait pas complètement favorable, Alain Musset ?
Alors, je ne suis pas sûr que ce soit une tradition latino-américaine. Disons le mot, le populisme n'est pas une invention de l'Amérique latine. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que cette tradition que lui a instaurée maintenant au Mexique, de ces émissions de radio quotidiennes avec lesquelles il peut parler directement au peuple, c'est directement inspiré du Venezuela d'Hugo Chavez. Et ça, c'est un reproche, vous faites du chavisme. Et c'est aussi une tendance qui permet de dire, regardez, il passe à côté des pouvoirs institués, il passe à côté de tous les organismes qui normalement devraient créer le contact entre l'État et le peuple pour incarner lui-même le peuple. Et donc, il y a une tendance autoritaire, autocratique, qui est d'un certain côté assez nouvelle au Mexique. Parce que quand il y avait le parti révolutionnaire institutionnel au pouvoir, le président était effectivement quelqu'un qui avait à peu près tous les pouvoirs, mais un pouvoir qui était, je dirais, déconcentré dans toute la République. Là, il devient la personne, l'interlocuteur principal pour tout le monde. Donc, c'est un reproche qu'on lui fait, mais c'est un reproche qui est en même temps lié effectivement à son regard sur les mouvements sociaux. Il a lancé l'idée que les mouvements sociaux étaient en fait des mouvements réactionnaires et de droite, pour pouvoir se défendre. Et là, bien entendu, il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas du tout d'accord. Par exemple, le grand poète Javier Sicilia, qui est le fondateur, enfin un des fondateurs du
personnalité mouvement importante de la société civile, tout à fait, au Mexique, qui a lancé le mouvement pour la paix et la justice avec dignité.
Voilà, qui a d'ailleurs refusé de participer à la marche du 1er décembre, contre AMLO. Comment peut-on qualifier Javier Sicilia de personne liée aux conservateurs? Donc il y a chez AMLO une volonté de créer des clivages qui sont et qui risquent de devenir de plus en plus forts, même s'ils bénéficient toujours d'une grande popularité. Il y a toujours plus de 50-55% des Mexicains qui sont à sa faveur.
Et même Alain Musset, 70% selon certaines enquêtes. Alors dans ces secteurs de la société civile qui sont un peu sceptiques par rapport au premier bilan du président AMLO au Mexique, il y a la question des luttes, des droits des femmes, la question du féminisme. On dit le président un petit peu conservateur sur ces questions, et en tout cas il s'est fait critiquer sévèrement après une conférence de presse dans laquelle il aurait demandé expressément aux femmes de manifester sans violence pour leurs droits. Dans un pays, le Mexique, où les féminicides sont extrêmement importants et une plaie vraiment dans ce pays, est-ce que le président mexicain, selon vous, est conservateur ou en tout cas pas en mesure de garantir les droits des femmes, encore une fois très menacées dans ce pays, selon vous?
Alors, les droits des femmes sont non seulement menacés, mais le Mexique est un des pays où le taux de féminicide est le plus important au monde. Donc là encore, López Obrador hérite d'une situation qui n'est franchement pas bonne. Ceci dit, il a des positions, on peut le dire, d'un certain côté conservatrices. Il ne faut pas oublier qu'il n'est pas jeune. Donc il est d'une autre génération et en plus il a été formé au PRI. Hein, c'est quelqu'un qui est d'un certain...
Donc le PRI, on disait, le Parti Révolutionnaire Institutionnel qui a gouverné le pays sans interruption entre 1929 et l'an 2000, puis de nouveau avec Enrique Peña Nieto à partir, donc si ma mémoire est exacte, entre 2012 pardon, et 2018. Donc effectivement, un parti très important dans ce pays.
Oui, c'est un parti très important et finalement il a été formé là. Et donc il a ses capacités, je vais dire, qui sont un petit peu limitées par sa formation. Ceci dit, il a favorisé l'élection de Claudia Sheinbaum, donc une femme à la tête de la ville de Mexico. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez important. Récemment, il a présenté aussi un accord pour l'égalité de genre présentée par l'Institut National de la Femme. Et là, il y a encore une fois une volonté politique pour résoudre ces problèmes. Mais comme vous l'avez dit, ce n'est encore qu'une déclaration d'intention. Dans les faits, on ne voit pas la différence entre ce qui se passait avant et ce qui peut se passer maintenant ou dans un futur proche.
Alors, on parle toujours des droits humains au Mexique, hein, à un an de la prise de pouvoir de Andrés Manuel López Obrador. Avec vous, Alain Musset, impossible de parler de ces dossiers des droits humains dans ce pays sans parler de la question migratoire qui pose des problèmes au gouvernement, hein, qui a été contraint de coopérer avec les États-Unis, puisque en juin dernier, Donald Trump avait menacé d'imposer des barrières douanières si la prise en charge de cette question n'était pas effectuée par le Mexique, ce qui a abouti à une militarisation notamment de la frontière sud sous l'impulsion de Andrés Manuel López Obrador, et là encore avec des critiques des ONG, des défenseurs des droits humains. Quelle marge de manœuvre il a sur ce dossier, Alain Musset, entre la frontière des États-Unis et l'Amérique centrale, avec une question migratoire qui se fait très pressante pour le pouvoir mexicain?
Eh bien, il faut dire ce qui est, quand vous négociez avec un pistolet sur la tempe, vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre. Et c'est ce qui s'est passé avec López Obrador et Trump. Alors, il a dit maintenant que c'était pacifié, que tout s'entendait, qu'on s'entendait très bien, qu'il y avait même amour y paz, hein, de l'amour et de la paix entre les deux. En fait, on sait que ce n'est pas vrai. Et Trump a réussi à faire du Mexique sa véritable frontière sud. Mais ça, depuis 2006 déjà, il y avait cette intention. Donc, la marge de manœuvre est très faible, mais le problème, c'est qu'il avait dit qu'il allait changer complètement, que le Mexique allait accueillir les gens, qu'on allait leur donner des possibilités soit de travailler, soit de passer et d'aller de l'autre côté, à l'autre lado, hein, c'est-à-dire de l'autre côté de la frontière avec les États-Unis. Il a été obligé de mettre un frein et de faire un tour complet sur lui-même pour répondre à cette demande américaine. Donc là aussi, il y a un vrai problème qui se double d'un autre problème, qui est le problème qu'on a tendance à oublier, parce que le subcomandante Marcos, vous vous en souvenez, c'est cet intellectuel qui a lancé la révolte au Chiapas. Il y a le problème indigène aussi. Et ce problème indigène est un problème latent dans la société mexicaine.
Il complique effectivement la question pour la gestion des droits humains dans ce pays, qui reste un dossier dont on parlera sur cette antenne de France Culture ces prochains mois et ces prochaines années, évidemment. Merci beaucoup, Alain Musset, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur d'études à l'EHESS et spécialiste du Mexique.